Cher Marc Gentilini, je saluerai chaque fois que je le pourrai votre courage politique. Et je suis contente de terminer donc ce colloque et cette année en votre compagnie et sous votre présidence, disons. Monsieur le conseiller à l'Élysée, Madame la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Madame le ministre de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, le temps est venu de nous séparer. Ensemble, pendant 2 jours, nous avons réalisé, je crois, un pas important, celui d'écouter à Paris la pensée des intellectuels, de nos confrères et de nos collègues à l'œuvre sur le terrain, pour envisager ensemble comment nous pourrions soulager les populations en guerre et les plus pauvres, leur accorder plus de justice, d'équité et d'attention. Vous avez entendu cette pensée au sein de la plus haute instance académique de France, unique au monde, ainsi que la qualifie Serge Haroche, notre administrateur. Elle est unique à bien des égards. Ce que je souhaite relever pour ma part, c'est cette liberté de recherche, cette liberté de parole et de ton auquel nous y sommes conviés. L'autocritique est la condition même de la créativité scientifique. En partageant ces 2 journées de travail, nous avons été fidèles à l'invitation des fondateurs de la chaire Savoir contre pauvreté, Philippe Kourilski. Je t'ai vu dans cette salle, tu es fidèle jusqu'au bout. Merci d'être ici ce soir. Et Philippe Corvol, professeur au Collège de France, tous les deux, donc pendant de nombreuses années. En plus d'avoir été administrateur pendant 6 ans, Pierre Corvol fut le titulaire de la chaire de médecine expérimentale pendant plus de 20 ans, sans prononcer la même leçon, ainsi que l'exige l'idée du Collège de France d'enseigner la science en voie de se faire. Je suis tellement impressionnée par la puissance de travail des professeurs qui habitent cette maison. Aussi embryonnaire et laborieux soit-il à l'échelle de la planète ou du temps, dans un monde bouleversé et tendu, l'exercice de nos métiers sur le terrain constitue bien ensemble notre œuvre, tout à la fois professionnelle, académique, scientifique et politique. Sous prétexte que ce champ de recherche n'existe pas encore, je ne voudrais pas que la géopolitique de la santé se voie privée d'une pensée et d'une reconnaissance en termes scientifiques. C'est en cela que la poésie de René Char nous a accompagnés cette année. « Produit ce que la connaissance veut garder secret, la connaissance aux 100 passages. Si cette connaissance passe par les savoirs, elle passe surtout par la conscience de ce que nous ne savons pas, qui nous pousse à penser, à explorer des champs de recherche dont les hypothèses ne sont même pas formulées. » Conclure le colloque. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous présenter exactement les conclusions du colloque. Ce ne serait pas raisonnable. Je souhaite prendre le temps de rester fidèle aux prestations exceptionnelles de nos intervenants invités et prendre le temps de formuler très précisément leurs attentes, d'autant que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, nous a prévenu être à l'écoute de nos conclusions, que nous souhaitons voir utile à la politique de la France et de l'Europe, ce que Salif Samaké vient de nous rappeler. Par contre, je vous propose de conclure sur les enseignements de la chaire Savoir contre pauvreté cette année, puisque cette fin de 2e journée du colloque signe en même temps la dernière étape des enseignements. Mon successeur a été élu professeur en novembre dernier pour l'année académique 2013-2014. Son champ de recherche est l'économie du développement. Il vous sera présenté par l'administrateur. Vous pourrez ainsi continuer d'être enseigné dans des domaines intimement liés à nos sujets. Ainsi, nous voici arrivés à ce qui peut ressembler à une modeste conférence de clôture. Non sans nostalgie, je le reconnais, Philippe Kourilski, tu m'avais prévenu. Pour être honnête, cette nostalgie n'est pas seulement personnelle. Ce sentiment tient à ce qu'il existe bien peu d'endroits en France qui offrent une tribune scientifique pour dire le vécu, les réalités, et réfléchir aux défis auxquels populations professionnelles, intellectuelles, scientifiques et politiques ensemble nous sommes confrontés au Sud et un peu partout dans le monde. À cet égard, la bien nommée chaire Savoir contre pauvreté nous a été précieuse. Je souhaite, en votre nom à tous, en remercier mes collègues professeurs au Collège de France. La situation sur le terrain offense nos consciences, disait Philippe Riffman, et parfois indescriptible. Les mots ne suffisent pas, disait Philippe Riffman cet après-midi, en parlant de la Syrie. Les défis des situations actuelles au Mali et en Syrie et dans les régions moins médiatisées interpellent sérieusement notre humanité ou notre inhumanité. Abattre un combattant dans un lit d'hôpital et tuer ceux qui peuvent vous soigner et vous sauver la vie sont des actes d'une extrême violence, d'une extrême cruauté. Tuer un médecin ne vaut pas moins que tuer un journaliste. Chaque soignant blessé ou tué mérite tout autant la médiatisation et les honneurs. C'est à nous, ses confrères, et à la profession et à l'opinion de saluer leur mémoire aux côtés des journalistes. Les débats vont bon train entre ceux qui voient une croissance radieuse en Afrique et ceux qui ne croient pas aux statistiques du continent qualifiées par Morton Gervin de « poor numbers », « pauvres nombres ». C'est le titre de son dernier ouvrage. Je fais partie de ceux qui s'inquiètent de voir l'urbanisation se déployer à toute allure, engendrant maladies et inégalités sociales d'un autre âge. Autant de facteurs d'instabilité politique et de guerre faisant sombrer dans les combats des milliers d'enfants soldats, des millions de filles et de femmes violées. Préoccupés par le quotidien maussade de nos proches en Europe, nous oublions de nous préparer ensemble à ce qui peut advenir pour les autres. L'Afrique n'est pas nouvellement confrontée à des turbulences de cette nature, mais les phénomènes s'accélèrent et sont sans commune mesure avec ceux que nous connaissions dans les années 90. Les défis sont sérieux en termes humains. Ils sont sérieux en termes de paix. De ces deux dimensions, et pas seulement de la seconde, ils nous concernent tous sur la planète. Le fait que l'Afrique francophone accuse des retards à atteindre les objectifs de développement humain relève d'une préoccupation politique de l'Afrique, de la France, de l'Europe et du monde. Ainsi sommes-nous, les professionnels de médecine et de santé, invités à partager nos savoirs et nos idées, non pas entre nous, ce serait peine perdue, et prêcher, j'espère, des convaincus, mais avec ceux qui décident de la marche du monde. C'est l'enjeu de la phase actuelle de négociation des objectifs de développement après l'échéance 2015. Des premières concertations survenant au décours et dans le décor de la conférence de Rio plus 20 émanent un consensus en faveur de la convergence des objectifs de développement et de ceux du développement durable, qui deviendra probablement le paradigme dominant du développement, par lequel l'objectif principal n'est plus de réduire l'extrême pauvreté, mais d'éradiquer l'extrême pauvreté. Je fais la nuance parce que l'extrême pauvreté concerne des populations qui vivent avec moins de 1 dollar par jour et la pauvreté des populations qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et on a atteint des objectifs en termes d'extrême pauvreté, mais pas de pauvreté. Et lorsque nous lisons le titre de The Economist récemment, Towards the end of poverty or the end of poverty, on parle de la fin de l'extrême pauvreté peut-être, pouvons-nous l'espérer, mais pas de la pauvreté. Donc gardons cette conscience de ce que veulent dire les chiffres, ce que disent les chiffres, auxquels donc la communauté internationale a bon espoir de parvenir un peu partout, à l'exception de l'Afrique, nous lisons. Bien que conscient de l'importance des questions environnementales et climatiques, de leurs effets sur la santé et le développement. 25% de la charge mondiale de maladies serait liée à des causes environnementales. Il nous semble qu'en plus de 20 ans depuis la conférence de Rio sur la Terre en 1992, les interventions éducatives et sanitaires spécifiques aux populations les plus pauvres n'ont pas été réalisées dans le cadre des politiques de développement durable, qui ont privilégié le pilier environnemental et délaissé le pilier de la justice sociale. Ainsi devrons-nous accorder plus d'attention après 2015 aux 18 millions de grossesses précoces par an qui finissent lorsqu'elles se compliquent par tuer parfois jusqu'à deux enfants à la fois, l'adolescente et son bébé. Aux violences sexuelles massives se produisant dans des pays en guerre à l'encontre de fillettes, de jeunes filles, de femmes dont le colloque n'a pas assez parlé, en particulier en Afrique. Ou encore au retentissement des conflits armés sur la santé des peuples ou la vie des soignants. Ces femmes et hommes abandonnés du monde ne souffrent pas de maux communs mondiaux. Les capacités institutionnelles, les capacités humaines au sens d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum, la masse critique de compétences en recherche présentée hier par le professeur Ogobara Dumbo de Bamako et les conditions de constitution du capital humain, le respect des conditions de vie et d'emploi des travailleurs sur lesquels Francis Akindes a insisté, sont des problématiques que le colloque a souhaité souligner. Ce sont des sujets que les pays les moins avancés tentent justement de leur côté de rappeler aux politiques globales. C'est bien l'objectif de la couverture sanitaire universelle, me direz-vous. Je ne suis pas encore complètement convaincue de cela. En réduisant le nombre de personnes qui basculent chaque année dans la pauvreté du fait du paiement des soins, la couverture sanitaire est de fait un mécanisme de protection sociale et contribue à réduire la pauvreté. Est-ce pour autant en soi un objectif d'amélioration de la santé et un modèle à promouvoir si le paradigme sanitaire dominant en toile de fond reste médical, curatif, coûteux et souvent déficitaire comme nous l'observons dans nos pays? Ainsi, nous nous apprêtons à proposer au monde de demain de prendre en charge financièrement de plus en plus de malades. La question à réfléchir ensemble n'est-elle pas plutôt de construire des sociétés moins performantes à engendrer malades et maladies? Comment nous préparons-nous à offrir des soins de qualité? N'aurions-nous pas là une perspective, alors plus belle encore, de santé durable, préalable à tout développement? Plus que la couverture sanitaire, c'est cette question qui se pose à nous de manière universelle. La question de savoir comment rester en bonne santé lorsque la chance nous en a gratifié dès la naissance. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. La santé est un bien public. La santé est un droit. Je vous propose de voir et de promouvoir l'approche selon laquelle la santé est aussi une liberté individuelle ou publique, comme celle de s'exprimer ou de penser. Face à des intérêts contradictoires que nous souhaitons voir moins irréconciliables, nous en avons vivement débattu hier après-midi, entre intérêts commerciaux et développement humain, la défense de toute liberté exige un engagement citoyen et un engagement politique fort de tout un chacun en un projet de société dont la couverture sanitaire universelle serait une des dimensions et plutôt un moyen au service d'une politique qu'un objectif en soi. Les moyens attendus pour mettre en œuvre cette couverture sanitaire au bénéfice de tous sur la planète sont considérables. Ne nous berçons pas d'illusions. J'aime l'expression de Saïf Samaké de Bamako qui nous dit « c'est un chemin, la couverture sanitaire universelle, que chaque pays mènera et construira à son rythme ». L'efficacité des financements, d'où qu'ils viennent, dépend des procédures, certes, mais avant tout de la pertinence des approches et des interventions choisies en connaissance de cause, ce qui veut dire en connaissance du terrain et à notre capacité à tous à ajuster des réponses à des dynamiques et des priorités locales rapidement changeantes, ce sur quoi les pays ont insisté pendant le colloque, ajuster les réponses à leurs priorités. Jean-Jacques Gabas, Vincent Ribier et Michel Vernière ont dirigé un numéro de la revue Tiers Monde récemment consacré à la mesure du développement, comment science et politique se conjuguent, c'est le titre de leur numéro. Pour ce qui concerne la santé, la mesure des maladies et de la mortalité doit rester scientifique du point de vue épidémiologique, fidèle aux populations cibles et ne pas se limiter aux seuls usagers des services de soins, comme nous le faisons pour la plupart du temps. Les pouvoirs publics et les institutions internationales fabriquant ainsi des groupes d'exclus que je nommerais volontiers les disparus de la santé publique. Un regard plus critique des journalistes s'impose sur les éléments de communication des agences internationales. Plus généralement, ne nous laissons pas tenter par les euphémismes pour décrire ce que nous observons. Michel Foucault a raison. Il dit « L'équipement dont nous avons besoin pour faire face à l'avenir est un équipement de discours vrai. Ce sont eux qui nous permettent d'affronter le réel. » Ayons le courage d'affronter le réel au temps présent. Le développement durable, qui nous invite à nous soucier des générations futures, ce qui est louable et indispensable en soi, ne doit pas être une échappatoire à nos responsabilités à répondre collectivement aux transformations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Plutôt que de clore mes enseignements à cet instant, je souhaite voir la conclusion du colloque et de la chaire cette année comme une ouverture. comme une invitation adressée à ceux et celles qui ont découvert ces problématiques ou des approches différentes ici, à poursuivre et prolonger leurs réflexions, leur apprentissage et à nous rejoindre. Plus nous sommes conscients en nombre, moins nous prenons le risque d'être embarqués dans la tourmente à notre insu. Dire à ceux qui ont consacré leur vie à ces métiers, mes collègues et amis venus des quatre coins de la planète, ma profonde admiration et amitié pour le travail abattu et cet espoir de voir des plus jeunes que nous prendre le relais, avec une condition cependant, celle de prendre le relais là où nous nous retirons, mais pas là où nous avons commencé. Cela exige de notre part de multiplier ici et partout les lieux de transmission des savoirs et de formation. Cela exige de votre part, jeunes étudiants et professionnels, où que vous soyez, que vous aimiez lire l'histoire de la médecine, de la santé publique, de la santé internationale puis mondiale, que vous ayez une vision la plus complète possible des succès et limites de ce qui a été tenté avant vous, que vous gardiez le regard honnête et frais de votre jeunesse sur les décisions et actions du monde. Puissiez-vous, cher public dans cet amphithéâtre, chers auditeurs en ligne sur le site d'Internet, puisez ici des sources d'inspiration et un second souffle pour continuer d'agir à humaniser la santé envers et contre toute forme d'aliénation ou de destruction. Sincèrement, je pense que ce qui nous réunit ici, c'est cette perception de notre commune humanité, de notre sens commun, au sens que lui donnait peut-être la femme politique et philosophe Hannah Arendt. Il faudrait que je l'étudie plus avant, selon laquelle le monde commun véhiculerait les idées suivantes. L'idée de pluriel, d'un monde commun à des gens différents, mais pas d'indifférence, et la condition de notre relation au réel. Je la cite. « Même l'expérience du monde donné matériellement et sensiblement dépend de mon être en contact avec les autres hommes, de notre sens commun, qui règle et contrôle tous les autres sens, sans lequel chacun de nous serait enfermé dans la propre particularité de ces données sensibles, en elles-mêmes incertaines et trompeuses. C'est seulement parce que nous possédons un sens commun, only because we have a common sense, parce que ce n'est pas un homme, mais les hommes au pluriel qui habitent la Terre, que nous pouvons nous fier à notre expérience sensible immédiate. Tendre vers le sens commun, tendre vers le sens commun, c'est ce potentiel de puissance libératrice, novatrice et féconde de la réflexion interdisciplinaire qui le permet, la réflexion interhumaine combinée à la connaissance du terrain des intervenants qui ont inspiré, nourri les enseignements de la chaire cette année. Je vais m'arrêter là, je ne voudrais pas abuser de votre lassitude en cette fin de colloque et en ce mois de juin au jour tardif. Je vous promets des conclusions et des actes plus tard. Nous vous proposons, avant de terminer, de nous retrouver les 17 et 18 octobre lors du colloque de rentrée du Collège de France sur le thème cette année de science au pluriel et démocratie. N'est-ce pas un beau thème pour nous aussi ? Et ce colloque se prépare sous la direction subtile et toujours sympathique de professeur Pierre Rosanvallon. Nous vous y proposerons une session sur science politique et démocratie telle qu'elle s'anime dans les pays du Sud. L'autre rendez-vous que j'espère tenir avec vous, chers professeurs invités au séminaire et au colloque, est celui des publications des actes du colloque et de l'ouvrage des enseignements de la chaire Savoir contre pauvreté cette année. L'équipe du séminaire, donc c'était des cours qui vous étaient enseignés juste après mes cours tout au long de cette année, était composée, je tiens à les remercier aussi aujourd'hui, en même temps que les professeurs invités au colloque, était composé donc de Michel Pletchett, Joseph Brunet-Jailly, Anne Mills, Damien Ruegera, Claire Magone, Hubert Balic, Achille Basilekine, Philippe Kourilski et Marc Gentilini. Partageons ces savoirs. Les savoirs n'ont de sens que s'ils sont connus, c'est-à-dire que nous les savons disponibles et accessibles. Pensez à votre tour à diffuser la vidéo du colloque à ceux et celles qui n'ont pas pu venir nous rejoindre. Elle sera mise en ligne d'ici quelques jours sur le site internet de la chaire, Savoir contre pauvreté. Nous avons, je crois, débattu d'idées et d'approches nouvelles profondément inspirées d'honnêteté scientifique et intellectuelle. Ainsi, tous ces acteurs de terrain à qui je dédie ce colloque et qui ont cherché en vain un billet d'avion pour venir nous écouter seraient-ils un peu consolés ? J'ai une pensée pour Fatimata Moussa Anyamé, ancien ministre et ancienne secrétaire générale du ministère de la Santé au Niger, qui aurait tant aimé venir. Fatimata, ce n'est que partie remise. Julie Béret, où êtes-vous ? Julie Béret, je vous invite à nous rejoindre sur l'estrade pour vous dire ma reconnaissance et mes remerciements pour votre travail, dans la bonne humeur toujours. Votre collaboration fut très agréable, vraiment. Et c'est aussi grâce à vous que ce colloque, je pense, est réussi. Grâce à Gilles Debonne et à son équipe, à la régie, à Cécile Barnier, à la communication, au travail méticuleux de David Agémian sur le site Internet, au pilotage institutionnel éclairé de Marie Chéron et de la discrète, non moins réactive, directrice Florence Terrasse-Rioux. Enfin, si l'édition de ma leçon inaugurale est parue dans les temps, ce n'est pas sans les efforts d'Emmanuel Fleury. Merci à vous d'être venu, plus longue vie encore au Collège de France et à sa dimension internationale surtout, aussi animée donc par Guillaume Kaspersky sous la vice-présidence de l'Assemblée des professeurs, représentée donc par John Shedd. Et longue vie à la chaire Savoir contre pauvreté, Philippe Kourilski, merci encore de l'avoir créée et surtout bonne santé à tout le monde et merci beaucoup à Julie.